L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà pour Handicap Tribune avec un peu de retard. Et oui, à galère, tout arrive, même les ordinateurs qui merdoient.
Et oui, bah oui, parfois c'est comme ça. C'est pas grave, vu que je pense qu'on arrivera quand même à rattraper, à vous dire tout ce qu'on avait à vous raconter.
Alors, comme l'émission commence très bien, n'est-ce pas, nous allons commencer par une première pause. Il s'agit de Michel Buller et des tribulations, non pas d'un Chinois en Chine, mais d'un chanteur en Suisse.
Je venais de faire un disque très beau avec des chansons à pleurer. Je vais me pointer dans une radio des fois que ça leur plairait. Je m'adresse à celui qui fait la liste de ce que l'auditeur doit aimer. Tu repères tout de suite le spécialiste, Catogan Parasé. Il me dit quel talent, quelles idées, t'as de la chance de faire ce métier. C'est sûr que ma femme va craquer quand elle va t'écouter. Mais pour mes émissions, pas de bol, tu retardes mon vieux, y'a trop de paroles. Tout le monde chante en ricain maintenant, tiens même les Suisses allemands. Je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Pour faire un spectacle très gai, j'avais besoin d'un peu de pognon. Je m'en vais trouver la déléguée, la culture de mon canton. Elle me dit, j'adore ce que vous faites, un jour vous aurez votre statut. Mais vous allez rire, c'est trop bête, de l'argent, il n'y en a plus. Si vous saviez ce que ça coûte cher, le classique, la danse, l'opéra, enfin tout ce qui est art populaire, vous n'en reviendriez pas. Donc si vous pouviez patienter 20 ou 30 ans, ça m'arrangerait. Mais continuez, ne lâchez pas, vous êtes précieux pour moi. Je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Dans un théâtre, je prends rendez-vous avec monsieur le directeur. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais vite, je n'ai qu'un quart d'heure. Ben voilà, j'aimerais bien chanter, c'est admirable. Je réponds de lapin. Vous savez, Brel, Brassens, Ferré, je les connaissais très bien. Le grelot se met à sonner avant qu'il me déballe ses souvenirs. Il le raccroche 2 heures après, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, nous parlions de la chanson, vous écrivez de pure merveille. Mais je n'en fais qu'une fois par saison, je viens d'engager Dutheil. Je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Pour que ma carrière s'arrête pas là, je me dis je vais frapper chez les riches. Ils aiment les artistes ces gens-là, ils me paieront 2 affiches. Mon cher ami, me dit le banquier, quand pourriez-vous me rembourser? Même si dès que j'aurai du succès, il se met à rigoler. Je ne reverrai pas un copec et vous perdriez mon amitié. Je lui dis ton amitié, pauvre mec, j'en ai rien à branler. Mais par contre, poursuit ce connard, le jour où vous aurez 3 sous, je peux les placer, revenez me voir. Allez, bonjour chez vous, je sais pas si je me plante ou si j'ai raison. Des fois j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Lors je me suis dit, si je disparais, personne ne va pleurer ma perte. Il me restait plus qu'à crever, ce que je fais la gueule ouverte. Au moment de plonger dans le trou noir, comme j'aimais bien l'herbe, les feuilles et les oiseaux, je jette un regard en dehors du cercueil. Les ordures, ils étaient tous là, tous les faux culs, les cultureux, la banque, la radio, les médias et tous les larmes aux yeux. Pâmé devant 3 chanteurs ringards qui massacraient un de mes couplets, tandis que plus loin, un type blafard encaissait les cachets. Et si vous tenez à ce qui vous sert de rouston, je leur ai dit juste avant de partir pour de bon. Ça avait intérêt à m'enterrer profond. Et c'est tout ce qu'il y a comme morale à cette chanson.
c'était Michel Buller, donc les tribulations d'un chanteur en Suisse.
Oui, dynamique et un peu révolutionnaire sur les bords, comme d'habitude, avec Buller. Voilà. C'est tiré de quel album, ça ?
Ah, je sais pas.
Si, moi je sais, je crois que ça s'appelle « Jusqu'à quand ?», c'est un de ses derniers, il me semble. Voilà, donc on n'a plus le concours d'Anne-Marie dans cette émission, puisqu'elle avait d'autres activités, donc elle nous a... non, elle ne nous a pas laissé tomber, mais elle nous a, comment dirais-je, quitté, voilà, pour d'autres choses. Mais je me suis dit quand même qu'une rubrique lecture à voix haute, ça pouvait quand même être intéressant. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas de lecture à voix haute en direct parce que j'ai rien préparé de tel. Mais je vous propose de découvrir un livre ou de redécouvrir, pour ceux qui le connaissent, et qui par hasard l'auraient lu sur papier, de découvrir un roman donc de Laurent Godet qui s'appelle Le Soleil d'Escorta, qui a quand même été pris Goncourt en 2004. Et qui donc a été mise en audio. Donc c'est en fait une saga familiale. Ça se passe sur plus d'un siècle à peu près de la vie d'une famille, 4 générations, dans un village des Pouilles en Italie du Sud. Et le romancier en fait fait alterner le déroulement de l'action avec donc à la troisième personne, avec le récit de l'un des personnages qui révèle tous les secrets de la famille en fait que l'action ne montre pas directement. Et donc voilà donc un extrait, c'est-à-dire qui est paru en 5 ou 6 CD, je crois. C'était paru chez VDB, avec donc la particularité de VDB que vous allez découvrir. Et c'est un extrait donc de cette narration de l'un des personnages, et ça raconte le voyage de ces émigrants italiens vers New York.
Je suis venu vous raconter le voyage à New York, Don Salvatore. Et s'il ne faisait pas nuit, je n'oserais jamais parler. Mais l'obscurité nous entoure. Vous fumez doucement, et je dois m'acquitter de ma tâche. Après l'enterrement de mon père, Don Giorgio nous a convoqués pour nous exposer ses plans. Il avait trouvé une petite maison dans le vieux village où notre mère, la muette, allait pouvoir vivre. Ce serait pauvre, mais digne. Elle s'y installerait dès que possible. En revanche, pour nous, il fallait trouver une autre solution. La vie ici, à Montepuccio, ne nous offrait rien. Nous allions traîner notre pauvreté dans les ruelles du village avec la rage des êtres que le sort a déchus de leur rang. Rien de bon ne naîtrait de cela. Don Giorgio ne voulait pas nous condamner à une vie de malheur et de crasse. Il avait pensé à mieux. Il se débrouillerait pour obtenir 3 billets sur un paquebot qui faisait la liaison entre Naples et New York. L'Église paierait. Nous partirions vers cette terre où les pauvres construisent des immeubles plus hauts que le ciel et où la fortune remplit parfois les poches des loqueteux. Nous avons tout de suite dit oui. Le soir même, je me souviens, des images folles de villes imaginaires tournaient dans ma tête et je me répétais sans cesse ce mot comme une prière qui me faisait briller les yeux. New York, New York. Lorsque nous avons quitté Montepuccio pour Naples, accompagné de Don Giorgio qui voulait nous escorter jusqu'à l'embarcadère, il me sembla que la terre gronda sous nos pieds, comme si elle maugrait contre ses fils qui avaient l'audace de tenter de l'abandonner. Nous avons quitté le Gargano, nous sommes descendus dans la grande plaine triste de Foggia, et nous avons traversé l'Italie de part en part jusqu'à arriver à Naples. Nous avons ouvert de grands yeux sur ce labyrinthe de cris, de crasse et de chaleur. La grande ville sentait la barbaque et le poisson avarié. Les ruelles de Spaccanapoli grouillaient d'enfants aux ventres ronds et aux bouches édentées. Don Giorgio nous a menés jusqu'au port et nous avons embarqué sur un de ces paquebots construits pour emmener les crèves-la-faim d'un point à un autre du globe, dans de grands soupirs de fioul. Nous avons pris place sur le pont, au milieu de nos semblables. Miséreux d'Europe au regard affamé. Famille entière aux gamins esselés. Comme tous les autres, nous nous sommes tenus par la main pour ne pas nous perdre dans la foule. Comme tous les autres, la première nuit, nous n'avons pu trouver le sommeil, craignant que des mains vicieuses ne nous dérobent la couverture que nous nous partagions. Comme tous les autres, nous avons pleuré lorsque l'immense bateau a quitté la baie de Naples. La vie commence, a murmuré Domenico. L'Italie disparaissait à vue d'œil. Comme tous les autres, nous nous sommes tournés vers l'Amérique, attendant le jour où les côtes seraient en vue, espérant dans des rêves étranges que tout là-bas soit différent. Les couleurs, les odeurs, les lois, les hommes, tout. Plus grand, plus doux. Durant la traversée, nous restions des heures au parapet, rêvant à ce que pouvait bien être ce continent où les crasseux comme nous étaient les bienvenus. Les jours étaient longs, mais cela importait peu, car les rêves que nous faisions avaient besoin d'heures entières pour se développer dans nos esprits. Les jours étaient longs, mais nous les avons laissés couler avec bonheur, puisque le monde commençait. Un jour enfin, nous sommes entrés dans la baie de New York. Le paquebot se dirigeait lentement vers la petite île d'Ellis Island. La joie de ce jour Don Salvatore, et je ne l'oublierai jamais. Nous dansions et crions. Une agitation frénétique avait pris possession du pont. Tout le monde voulait voir la terre nouvelle. Nous acclamions chaque chalutier de pêcheurs que nous dépassions. Tous montraient du doigt les immeubles de Manhattan. Nous dévorions des yeux chaque détail de la côte. Lorsqu'enfin, le bateau fut à quai, nous descendîmes dans un brouhaha de joie et d'impatience. La foule emplit le grand hall de la petite île. Le monde entier était là. Nous entendions parler des langues que nous prîmes d'abord pour du milanais ou du romain, mais nous dûmes ensuite convenir que ce qui se passait ici était bien plus vaste. Le monde entier nous entourait. Nous aurions pu nous sentir perdus. Nous étions étrangers. Nous ne comprenions rien. Mais un sentiment étrange nous envahit, Don Salvatore. Nous avions la conviction que nous étions ici, à notre place. Là, au milieu de ces égarés, dans ce tumulte de voix et d'accents, nous étions chez nous. Ceux qui nous entouraient étaient nos frères, par la crasse qu'ils portaient au visage, par la peur qui leur serrait le ventre, comme à nous. Don Giorgio avait eu raison. C'est ici qu'était notre place, dans ce pays qui ne ressemblait à aucun autre. Nous étions en Amérique et plus rien ne nous faisait peur. Notre vie à Montepuccio nous semblait désormais lointaine et laide. Nous étions en Amérique et nos nuits étaient traversées de rêves joyeux et affamés. Don Salvatore, ne faites pas attention si ma voix se casse et si je baisse les yeux. Je vais vous raconter ce que personne ne sait. Personne d'autre que l'escorta. Écoutez. La nuit est vaste et je vais tout dire. À l'arrivée, nous descendîmes du paquebot avec enthousiasme. Nous étions joyeux et impatients. Il fallut s'installer dans la tente, mais cela, pour nous, n'avait aucune importance. Nous fîmes des queues interminables. Nous nous prêtâmes à des démarches étranges que nous ne comprenions pas. Tout était lent. On nous dirigeait vers un comptoir, puis vers un autre. Nous nous serrions les uns contre les autres pour ne pas nous perdre. Des heures passaient sans que la foule semble diminuer. Tout le monde piétinait. Domenico avançait toujours en tête. À un moment, il nous annonça que nous allions passer devant des médecins et qu'il fallait tirer la langue, respirer profondément plusieurs fois et ne pas craindre d'ouvrir sa chemise si on nous le demandait. Il fallait se plier à tout cela, mais peu importait, nous étions prêts à attendre des jours entiers s'il le fallait. Le pays était là, à portée de main. Lorsque je suis passé devant le médecin, il m'a arrêté d'un geste. Il a observé mes yeux et, sans rien dire, il m'a fait une marque à la craie sur la main. J'ai voulu demander pourquoi, mais on m'a fait signe d'avancer vers une autre salle. Un second médecin m'a ausculté, plus longtemps. Il m'a posé des questions, mais je n'ai pas compris et je n'ai su que répondre. J'étais une gamine, Don Salvatore, une gamine. Et mes genoux tremblaient devant ces étrangers qui se penchaient sur moi comme sur un animal de bétail. Un peu plus tard, mes frères m'ont rejointe. Ils avaient dû batailler pour qu'on les laisse passer. C'est lorsqu'un interprète est arrivé que nous avons compris ce dont il s'agissait. J'avais une infection. J'avais été malade, effectivement, sur le bateau pendant plusieurs jours. De la fièvre, des diarrhées, les yeux rouges, mais je pensais que cela allait passer. J'étais une gamine qui allait à New York et il me semblait qu'aucune maladie ne pouvait venir à bout de moi. L'homme parla longtemps et tout ce que je compris, c'est que pour moi, le voyage finissait ici. Le sol s'effaça sous mes pieds. J'étais refusée, Don Salvatore. Tout était fini. J'avais honte et je baissais la tête pour ne pas croiser le regard de mes frères. Ils gardaient le silence à mes côtés. Je contemplais la longue file d'émigrés qui continuait à passer devant nous et je ne pensais qu'à une chose. Tout cela qui passe, et même la malingre là, et même le vieillard qui crèvera peut-être dans 2 mois, tout cela. Et moi, pourquoi pas moi ? L'interprète a parlé à nouveau. « Vous allez repartir. Le bateau est gratuit. Pas de problème. Gratuit. » Il n'avait que ce mot à la bouche. C'est alors que Giuseppe a proposé à Domenico de continuer seul. « Mimi, tu passes. Moi, je reste avec Muccia. » Je ne disais rien. Notre vie se jouait là. Dans cette discussion entre 2 pièces, notre vie pour les années à venir, mais je ne disais rien. Je ne pouvais pas, je n'avais aucune force, j'avais honte. Seulement honte. Je ne pouvais qu'écouter et m'en remettre à mes frères. Nos 3 vies se jouaient là, par ma faute à moi. Tout dépendait de ce qu'ils allaient décider. Giuseppe a répété, « C'est le mieux, Mimi, toi tu passes, tu t'en sortiras tout seul. » Moi, je reste avec Muccia. On retourne au pays et on réessaiera plus tard. Un temps infini s'est écoulé. Croyez-moi, Don Salvatore, j'ai vieilli durant cette seule minute de plusieurs années. Tout était suspendu. J'attendais. Le temps que le destin, peut-être, soupèse nos 3 vies et choisisse un sort qui lui plaise. Et puis, Domenico a parlé et il a dit... Non, on est venus ensemble, on repart ensemble. Giuseppe a encore voulu insister, mais Domenico l'a interrompu. Il avait pris sa décision. Il serrait les mâchoires et il fit un geste sec de la main que je n'oublierai jamais. C'est tous les 3 ou personne. Ils ne veulent pas de nous. Qu'ils aillent se faire foutre.
Ouh, il doit y avoir un portable qui empêche le qui fait du bruit. Voilà. Donc, c'était alors. Donc le Soleil d'Escorta, un extrait un peu long, effectivement. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais je l'ai trouvé tellement beau. C'est certainement une des plus belles scènes du roman, à mon avis.
Et si vous
voulez vous lire la totalité, qu'on soit non-voyant ou pas d'ailleurs, le livre audio est empruntable auprès de la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. Et par ailleurs, donc ce livre audio qui a été fait à 2 voix par Véronique Groudemiry d'une part et Yves Mugler d'autre part, pour le compte des éditions VDB donc. Mais il va y en avoir un autre qui va être fait aussi, avec une seule voix cette fois, un monsieur, je ne sais plus son nom, et qui va paraître le mois prochain chez Télème. Voilà, donc on va poursuivre donc avec une petite dédicace de cette émission, parce que le mois de février a marqué l'anniversaire de deux choses. D'une part, de la des 40 ans de l'association sportive Sport et Loisirs pour aveugles et amblyopes, l'ASLA, que certains connaissent, je pense. Et puis, février, ça marque aussi l'anniversaire des 75 ans de son fondateur, Bernard Gamet. Et donc, il y a quelques années de cela, je pense, le groupe, la Slav, quelques personnes en tout cas du groupe, avaient composé une chanson en hommage à leur président. Bernard, donc, et ils l'ont mis sur CD, ce qui fait que on peut éventuellement, même certainement, vous la faire passer ce soir et la dédier à toutes les personnes de la SLA qui reconnaîtront certainement ce petit air-là.
Par un jour de grande froid dure, il prit la route pour le midi. Au volant de sa vieille voiture, il débarqua un vendredi. Il a passé 1000 virages en lâchant le volant des mains, évitant les carambolages. C'est le gros homme de Saint-Germain.
L'homme de Saint,
l'homme de Jean,
l'homme de main.
L'homme de Saint-Germain, Pépin. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du Boudin. L'homme de Saint-Germain, Pépin. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du Boudin. L'homme de Saint-Germain.
Il est petit et bien trop large, trop court sur pattes et petits pieds. Sa barbe couvre tout son visage, son œil paraît toujours épié. Il se déplace l'allure gauche en agitant ses grosses mains. Il nous fait peur à qui les mouches, c'est le gros homme de Saint-Germain.
L'homme de Saint,
l'homme de Jean,
l'homme de main,
l'homme de Saint-Germain, papa. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du Boudin. L'homme de Saint-Germain, papa. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du Boudin. L'homme de Saint-Germain.
Habillé de sa longue veste qui ne se ferme jamais devant, et dès qu'il fait deux ou trois gestes, on voit son ventre bedonnant. Il est chaussé de vieilles grôles, il porte un pantalon tintin. Quel homme étrange, ma parole, c'est le gros homme de Saint-Germain.
L'homme de Saint,
l'homme de Jean,
l'homme de Saint-Germain, pimpin. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du Boudin. L'homme de Saint-Germain, pimpin. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du Boudin. L'homme de Saint-Germain.
Il ne connaît qu'une méthode, grand coup de gueule, pied au culottage. Il dit que c'est bien plus commode que les caresses et les images. Il n'épargne jamais personne, ni les adultes, ni les gamins. C'est pour la forme qu'il bougonne, c'est le gros homme de Saint-Germain.
L'homme de Saint,
l'homme de Jean,
l'homme de main,
l'homme de main,
l'homme de Saint-Germain, pimpin. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du Boudin. L'homme de Saint-Germain, pimpin. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du Boudin. L'homme de Saint-Germain.
C'était mis dans sa grosse tête de nous faire faire beaucoup de sport. Il crée la SLA pour la compète et pour gagner des médailles d'or. À l'aviron, ski et torbol, sur un tandem et sur bourrin. De ce grand chef, y en a ras-le-bol, c'est le gros homme de Saint-Germain.
L'homme de Saint,
l'homme de Jean,
l'homme de main,
l'homme.
Saint-Germain, pimpin. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du boudin, l'homme de Saint-Germain, pimpin. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du boudin, l'homme de Saint-Germain. S'il décidait, ce bon gamin, de repartir sous d'autres cieux, que ferions-nous, pauvres paumés, sans la présence de notre bon Dieu? Mais nous on sait qu'il restera à Marseille au milieu des siens. Il aime trop sa bonne à cela, c'est le gros homme de Saint-Germain.
L'homme de Saint,
l'homme de Germain.
L'homme de main,
l'homme de main.
L'homme de Saint-Germain, pim, pim. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du boudin, l'homme de Saint-Germain, pim, pim. L'homme de Saint-Germain, ce n'est pas du boudin, l'homme de Saint-Germain.
Très bonne question, on se demandait qui étaient les interprètes de cette petite chanson. Eh bien, ma foi, s'il y a quelqu'un de la SLA qui, par hasard, nous écoute et qui le sait,
il
l'écrive sur le site parce que le téléphone ne fonctionne pas. On n'a malheureusement pas de possibilité d'antenne ouverte. Mais par contre, les commentaires sur notre site www.laluciole.asso.fr sont les bienvenus. Et j'espère que ce petit hommage aura fait plaisir. Voilà, première interview de l'émission qui va nous ramener à quelques petits mois de distance, puisque c'était en décembre, c'était autonomique, au début décembre. Et j'ai fait un petit tour sur le salon et on a profité de l'occasion pour m'interviewer. Ben ouais, des fois, c'est moi qui fais les interviews, puis des fois, c'est moi qu'on interviewe. Ça arrive. Et puis, comme j'ai été interviewée par une journaliste de galère, ben je pense que c'était l'occasion aussi de la faire valoir. Et donc, voilà, l'interview que Alex et moi avons faite, c'était après le premier jour du salon, puisque j'ai pu en faire qu'un, puisque le lendemain, j'étais malade.
Alors, Dorothée, tu as fait donc le salon autonomique aujourd'hui ?
Oui, j'ai fait un petit tour.
Qu'est-ce que tu as vu ?
Ben, j'ai vu plusieurs stands. Je suis allée d'abord sur un stand qui propose des chiens d'assistance, qui s'appelle Andy Chien, qui est un stand qui propose des chiens d'assistance pour les personnes en fauteuil. Et donc, ils expliquaient que ce sont des chiens, soit des labradors, soit des golden. Et ils les éduquent sur 2 ans avant de les remettre aux personnes gracieusement, comme les chiens guides un petit peu. La différence avec les chiens guides, c'est que le chien d'assistance, il répond à des ordres, alors que le chien guide aussi, mais en même temps, le chien guide, il peut anticiper. C'est-à-dire qu'il va prévenir son maître de ce qui se passe. Alors que le chien d'assistance, lui, il répond à l'ordre de son maître, va me chercher ci, va me chercher ça. Il peut aller chercher des objets, il peut ouvrir la porte, il peut fermer la porte. Il peut éventuellement tenir un objet ou quelque chose comme des ordres de ce genre. Après ça, j'ai été faire un tour sur le stand de Marseille-Provence Métropole, qui présente les véhicules qui vont être mis en service pour Mobi Métropole, donc le service de transport de personnes handicapées à Marseille. Ils ont des nouveaux véhicules parce que là, ils avaient des camions, des véhicules de location qui souvent étaient en fait des utilitaires qui étaient transformés en véhicules de transport et donc qui étaient assez peu confortables pour les clients et pour les chauffeurs. Et là, ils se sont décidés à acheter leurs propres véhicules, qui vont être des Master Renault, et qui sont beaucoup plus confortables en termes de montée dans les véhicules, d'assises et de suspension pour les personnes, et puis aussi en termes de chauffage et de climatisation. Tout ça, c'est intégré dans les voitures elles-mêmes, quoi. Puis l'habillage est plus joli aussi, c'est pas de la tôle, c'est un habillage voiture, quoi.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ah oui, c'est plutôt assez bien pour les chauffeurs et pour nous, je pense, parce que franchement, les camions de location, ils étaient souvent en assez mauvais état et les suspensions, c'était pas terrible, quoi. on avait un peu l'impression d'être baladé dans un panier à salade. Donc ça va être quand même un peu mieux, je pense. Ce sera tout bénef pour les chauffeurs et pour nous. Et puis ils ont aussi mis en haut des véhicules, ils ont mis des couleurs beaucoup plus flash, quoi, pour que ce soit bien repérable par les automobilistes. Parce qu'une des plaintes des chauffeurs, c'était que les automobilistes ne les visualisent pas comme des véhicules prioritaires. Et donc du coup, enfin prioritaires en tout cas, des véhicules de transport de personnes handicapées. Et donc ils voulaient qu'il y ait quelque chose de plus voyant pour être repéré, quoi. Voilà, après qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai été sur des stands aussi pour les personnes déficientes visuelles. Alors il y a ici plusieurs vendeurs d'informatique, en fait, il y a la CIMIS, il y a Eurobraille, il y a Cessia, qui sont des vendeurs d'appareils qui la plupart du temps fonctionnent sous Windows, et qui vendent aussi des afficheurs braille, donc des bloc-notes braille aussi. Ce sont des petites machines que l'on peut mettre dans son sac et qui sont des bloc-notes en fait, mais avec une plage braille et un clavier braille.
Et alors, qu'est-ce que t'en penses toi de ça?
C'est des choses assez sympathiques, mais qui coûtent des prix assez pas sympathiques. Donc la plage braille, les petites plages braille de 12-14 caractères, elles font 1 200 €. C'est moins cher que ce qu'on pouvait attendre pour du braille quand même, parce que c'est les moins chers, quoi, on va dire. Mais en même temps, c'est quand même pas donné. C'est quand même pas donné pour tout le monde. Il y a deux stands ici qui proposent du GPS pour les personnes handicapées visuelles, qui sont tous dérivés d'un autre GPS du commerce qui s'appelle Captain. Et qui, donc, pour le premier, il y a en fait le Captain Mobility, qui est celui vendu par Cessia. C'est un Captain qui a été amélioré en autonomie, qui a été amélioré aussi il y a un lecteur DESI dessus, donc on peut mettre des livres structurés en format DESI dessus. Il y a des petites choses comme ça qui ont été améliorées. Et puis il y a le Capteo qui est quand même bien moins cher, bon, qui n'a pas de lecteur DESI, mais qui quand même a moins d'autonomie aussi, mais qui est quand même deux fois moins cher aussi. Donc, et qui peut peut-être, et qui a aussi l'intérêt peut-être par rapport à l'autre, qu'il a les messages de guidage sont orientés vraiment déficience visuelle, on va dire. Puisqu'il va vous dire par exemple que telle rue, telle intersection de rue est à 9h, à 11h, à 10h, ce qui permet de se repérer dans l'espace, ce que fait pas forcément n'importe quel GPS. Et puis j'ai vu une machine à lire portable aussi, qui ressemble à un gros magnétophone, genre magnétophone à bande, quoi, à peu près, un point de vue, un petit peu moins gros peut-être, les gros magnétophones à cassette plutôt, et qui, au moyen donc d'un appareil photo, prend la photo du document et ensuite le retranscrit en synthèse vocale d'assez bonne qualité, même de qualité convenable, disons.
Avec un logiciel de reconnaissance des signes.
Avec un logiciel de reconnaissance des caractères, oui, à l'intérieur. Et ça, ça fait la petite bagatelle de 3000 et quelques euros quand même. Alors, il faut quand même savoir que quand on dit des prix comme ça, ça paraît astronomique, mais il faut quand même savoir que avec les dispositifs de compensation pour les personnes handicapées visuelles et autres d'ailleurs, il y a des aides qui peuvent être aussi prises en partie par ces dispositifs-là. Il y a ce qui s'appelle la compensatrice aide technique, qui permet quand même de, moyennant évidemment des dossiers et un peu de patience, d'obtenir parfois des aides pourvu qu'on en ait l'utilité.
À titre individuel,
pas à titre individuel, oui. Bah, à titre associatif, c'est plutôt les subventions d'équipement ou les mécénats de fondations qui vont permettre d'acheter l'équipement.
Bon, donc c'est plutôt intéressant.
Oui, il y a des choses assez intéressantes. Puis j'ai vu aussi quelque chose qui est dans un prix abordable, on va dire, et qui peut intéresser des personnes qui ont du mal avec les téléphones portables modernes, qui ont de très petites touches, qui sont très proches les unes des autres et qui sont un peu casse-pieds. Il y a une société suisse qui fabrique ce qu'on appelle ils ont appelé ça un Alto. C'est un téléphone portable avec à l'intérieur une synthèse vocale qui est donc intégrée à l'appareil et qui a des touches qui sont assez espacées et assez larges. Ce qui fait que si quelqu'un a vraiment du mal avec les touches, qui est très malvoyant ou qui a des difficultés avec les doigts, quoi, il peut arriver quand même à se servir d'un portable. Et ça coûte dans les 100-120 €, c'est quand même un prix abordable pour un téléphone, même si effectivement il y a des téléphones Enfin, les téléphones portables coûtent en général, ceux de base coûtent à peu près dans ces tarifs-là, quoi. Donc, évidemment, il fait pas smartphone, hein, mais il fait des fonctions de base de téléphonie. Et pour certaines catégories de public, ça suffit amplement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il reste quand même un stand autour du logiciel libre. On va quand même en parler, hein, parce que c'est quand même important. C'est vrai que c'est... D'ailleurs, la Luciole est artisan de la venue de cette personne sur le stand, sur le salon, puisqu'elle a cofinancé le stand. Et en fait, ce que je voulais, moi, c'était que justement l'alternative libre puisse s'exprimer dans un salon comme celui-ci, qui est un salon quand même très commercial, très, très technologie Windows, bien fermé, bien propriétaire, bien tout ça. Moi, l'idée quand même, c'était de dire, bon, mais il y a quand même des alternatives à ça, à JAWS, à Windows et à tout ça. Même si elles ne sont pas forcément évidentes, mais de toute façon, Windows n'est pas évident non plus. Donc, des alternatives qui sont gratuites, en tout cas pour ce qui est pas du matériel, mais du logiciel. Puisqu'un ordinateur, ça coûte toujours. Hein. Une formation, ça coûte aussi. Mais en même temps, mieux vaut peut-être payer de la formation plutôt que payer du logiciel. Si le logiciel est gratuit, on paye une formation, ça veut dire qu'on va vous apprendre à vous en servir. Si vous payez du logiciel, vous allez payer le logiciel, vous allez aussi payer la formation qui va avec, ou alors vous n'allez pas payer la formation, mais vous ne saurez pas vous servir correctement de votre logiciel. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les alternatives gratuites, et avec Linux et avec le lecteur d'écran pour Windows gratuit qui est NVDA, c'est qu'on n'achète pas le logiciel, mais on achète le service qui est autour. On peut, du moins, on n'est pas obligé. On peut acheter le service qui est autour, qui est de l'ordre de la formation et du service après-vente, de la maintenance.
Voilà donc la petite balade à Autonomique. Ça date un peu, c'est décembre, mais on reviendra certainement sur ces choses technologiques, peut-être dans d'autres émissions. Il y a également, d'ailleurs, ce salon Autonomique se déplace un peu partout en France.
Il est
prochainement prévu sur Toulouse, oui, effectivement. Donc, les gens qui seraient des environs ou qui voudraient monter à Toulouse peuvent aller effectivement voir ce qu'il en est de tout ça. Et puis par ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés notamment par la démonstration du Capteo, il pourrait être possible de faire une démonstration si on a suffisamment de personnes intéressées par ce logiciel, donc de faire une démonstration sur Marseille. Donc si par hasard il y a des amateurs, qu'ils le fassent savoir, comme ça on se mettra en contact avec EO Guidage, qui donc est la société qui vend cet appareil et qui viendra nous démontrer comment ça marche. Et j'espère que ce sera plutôt en situation quand même un peu de fonctionnement réel, parce que le problème de ce genre de démonstration de GPS, c'est que souvent on le fait dans une maison fermée, on ne va pas dans la ville et du coup on n'a pas une démonstration tout à fait probante de ce que ça peut donner. Donc moi, si je fais faire ça, c'est en espérant quand même qu'on puisse faire quelque chose, disons de semi-réel en tout cas, pour que ça puisse quand même donner quelque chose de probant aux futurs acheteurs. Sachant qu'évidemment, la démonstration ne serait pas forcément liée à l'achat. En tout cas, ça, c'est quelque chose auquel je tiens aussi, parce que quand on démontre, on démontre, et puis c'est pas forcé qu'on a des clients pour autant. Voilà, donc une nouvelle pause avec Jacques Dutronc. Tiens.
Les rois de la réforme.
Non, tu nous as mis Larsen.
Ah oui, c'est moi, Larsen. Oui, voilà.
Voilà,
non, c'est Larsen, oui. Excusez-moi.
En public.
C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien son gant, Larsen. Quand il s'en mêle, tout se révèle, tout se dégèle, et son sel. Larsen, quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches sans un écoche. Larsen, C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombeurs. Il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, la scène. Avec son parapluie, sa moustache mise en plis, la scène. Avec son flair infaillible, il est irrésistible, la scène. Irrésistible et parfois invisible, la belle, la belle Arsène. C'est un persan de coffre-fort, c'est un cassin de joli cœur, le redresseur de tous les temps, l'Arsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant. La scène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, la scène, c'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombeurs, il est brillant. Comme le diamant, rapide comme le vent, le bel Arsène. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci.
Voilà donc Jacques Dutronc, c'est la pause nostalgique, j'allais dire. Hein, Philippe?
Oui.
Non, je sais pas pourquoi
oui.
T'as choisi ça, ça m'a
c'est
fait
pas,
rire
non,
moi.
C'est
personnellement,
chose.
J'adore cette chanson, mais donc voilà. Alors la seconde interview de notre émission concerne l'association Nouveau Regard sur le Handicap que nous allons vous présenter. Et donc j'ai eu au téléphone sa présidente. Je vais lui laisser la parole tout simplement.
Présidente d'une petite association qui se trouve sur le panier à Beau, le siège social. Nous œuvrons dans le domaine du handicap, bien entendu, sur tous les handicaps. Cette association regroupe, si on veut, beaucoup de bénévoles valides. Et sur 90 adhérents, nous avons un tiers de personnes handicapées, tout handicap confondu.
Et quel est l'objet, en fait, de Nouveau Regard sur le handicap? D'abord, pourquoi
Alors,
ce nom, Nouveau Regard?
Le premier était d'organiser des journées de sensibilisation, j'insiste toujours sur tous les handicaps, dans les écoles élémentaires. Les écoles élémentaires, nous ciblons les enfants du cycle 3. Cycle 3 dans le second éducation nationale, ce sont des enfants de CE2, CM1, CM2, donc des 8-11 ans. L'association Nouveau Regard NRH a été créée en 2004, mais nous avons commencé ces sensibilisations depuis 2002 sur le département et entre autres sur les paniers à Beau pour commencer. Nous ne le faisons pas seuls, nous nous sommes mis en collectif. Donc au départ, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir les différentes associations d'autres handicaps, c'est-à-dire handicap moteur, nous travaillons avec l'Association des paralysés de France, nous travaillons avec l'AFM, l'Association française contre les myopathies, les handicaps sensoriels, donc la surdité, avec le centre d'interprétariat de liaison pour les sourds, avec la langue des signes. Les enfants adorent jouer avec la langue des signes. Nous travaillons aussi avec Trisomie 21 et les enfants sont confrontés à rencontrer une jeune fille trisomique, bien entendu guidée et épaulée par une maman de l'association, mais qui n'est pas sa maman. Après, nous travaillons avec, je réfléchis, ben bien sûr, Handisport qui est très très ludique pour les enfants. Et les journées ne peuvent pas se passer de la cécité, bien entendu, puisque j'ai oublié de le dire, je suis moi-même déficiente visuelle profonde, presque atteinte de cécité. Et j'ai une collègue qui m'aide pour ces journées, une collègue non-voyante qui m'aide pour ces journées de sensibilisation, qui fait partie de l'APEAS. L'APEAS, tous les non-voyants du département connaissent un petit peu, puisque l'APEAS est une association qui retraduit en braille et en audio Accent, la revue du Conseil Général.
Pourquoi ce nom Nouveau Regard sur le Handicap?
Justement parce que nous représentons différents handicaps, donc Nouveau Regard faire changer d'abord le regard entre nous, entre aveugles, sourds, handicapés moteurs, et surtout porter ce message auprès des enfants, qu'ils changent, qu'ils fassent tomber un petit peu ces tabous et qu'ils le transmettent à leurs parents. Voilà pourquoi Nouveau Regard sur le handicap, et notre leitmotiv, c'est apprenons à vivre ensemble.
Dans ces journées de sensibilisation, vous faites quoi exactement? Vous proposez quoi?
Alors, c'est tout un processus. Ça se présente en trois temps. Un mois avant notre passage à l'école, on remet à chaque enfant un questionnaire avec une espèce de QCM. Connais-tu un enfant handicapé? Oui, non. As-tu peur d'une personne handicapée? Oui, non. Cite-nous différents handicaps. Voilà. Chaque questionnaire est travaillé par une ou deux personnes bénévoles. C'est un très très lourd travail parce qu'en général, nous sensibilisons à chaque sensibilisation, il y a entre 90 et 110 enfants. Voilà, donc ça c'est la première étape qui se fait en classe avec les enseignants. Après, il y a une journée, toute la journée complète de sensibilisation. On sépare les enfants par petits groupes. Donc ça fait entre 15 et 18 enfants. Nous les mélangeons. CE2, CM1, CM2, c'est nous-mêmes qui faisons les groupes. Et ils sont répartis sur différents ateliers. Donc il y a l'atelier cécité, l'atelier trisomie 21, handicap mental, l'atelier handisport, où ils vont être confrontés de jouer sur un fauteuil pour ceux qui le désirent avec une personne à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant, ou qui a des problèmes de déplacement, pour jouer au ping-pong. Très souvent, c'est ça, lorsque l'école est accessible. Après, il y a l'atelier vie quotidienne d'une personne en fauteuil roulant. Il y a l'atelier langue des signes, bien sûr, avec une personne sourde et une interprète. Et nous avons créé, il n'y a pas longtemps, un atelier, ce que nous appelons parcours adapté, où ils se promènent dans la cour en fauteuil roulant, on les met en situation, et les yeux bandés avec une canne blanche. Voilà. Et prochainement, c'est la primeur, nous allons créer un petit atelier où nous allons les sensibiliser avec l'association DFD, c'est-à-dire Dyspraxie France 10, parce que de plus en plus dans les écoles, il y a cet handicap qui est enfin reconnu, qui est toutes les difficultés que peut rencontrer un enfant qui a des problèmes de dyslexie, de dyscalculie, enfin, c'est un handicap nouveau mais qui est bien reconnu et qui est en grande difficulté pour ce genre d'enfant. Cette journée demande un gros investissement de la part de l'association, puisskue nous en avons fait une le 29 janvier sur Vitrolles. Et nous étions entre les associations partenaires de ces journées et l'association NRH, donc Nouveau Regard sur l'Handicap. Nous étions 45 personnes en plus des élèves et des enseignants. Et 15 jours après notre passage, il y a un nouveau questionnaire qui est remis aux enfants à travailler en classe avec l'enseignant et dont nous faisons la synthèse après, que nous remettons à chaque enseignant pour qu'il ait le résultat de l'évolution entre le premier questionnaire et le deuxième. Et nous ne faisons que 4 journées par an. Nous ne voulons pas de la quantité mais de la qualité.
Et vous travaillez sur des écoles dans les environs d'Eppen ou bien un peu partout?
Je fais un petit appel. Je souhaiterais vivre justement que une association reprenne au niveau de Marseille. Nous sommes prêts à partager notre savoir-faire. Nous avons eu une demande au niveau de la mairie de Marseille. Nous intervenions jusqu'à présent, nous allions sur Aix, la Fare-les-Oliviers, disons, là où nous étions demandés. Et depuis un an et demi, deux ans, nous avons une convention tripartite entre la ville sur laquelle nous intervenons, bien sûr l'association Nouveau Regard sur le handicap, et ce qui prouve notre crédibilité avec l'éducation nationale du secteur. Donc nous avons une convention tripartite sur Vitrolles et sur les Pays Mirabeau Marignane. Donc nous nous devons actuellement, par rapport à cette convention, d'intervenir en priorité sur ces deux ou trois villes.
Et vous intervenez uniquement en primaire ? Pourquoi le primaire ?
Oui, nous avons choisi le primaire parce que, et cette tranche d'âge, parce qu'à NRH, nous trouvons que les enfants entre 8 et 11-12 ans, selon les cas, sont très naturels. Nous pensons qu'au collège, les jeunes ont leurs propres difficultés d'ado et qui passent en second, mais disons le handicap les touche peut-être un petit peu moins. Ça, c'est l'avis de l'association. Hein. Et nous avons tellement à faire et nous sortons toujours de ces journées émerveillés de la réaction des enfants. Il y a des questions inattendues et des raisonnements que n'ont pas les adultes.
Et à part la sensibilisation, qui est donc votre créneau principal, votre travail principal, vous avez également un service d'accompagnement pour les personnes handicapées sur les peines, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, attention, pas un service d'auxiliaire de vie, d'aide à la personne, bien loin de là. Ce service a été mis en place justement parce que nous nous sommes aperçus que de grosses difficultés de déplacement se posaient, que nous ne pouvions pas aller des Pays Mirabeau à Vitrolles ou des Pays Mirabeau sur Marseille. Alors c'est un petit plus pour aider surtout les personnes déficientes visuelles, je dirais, puisque nous avions mis ce service d'accompagnement au départ pour les personnes à mobilité réduite, mais les bénévoles utilisant leur propre véhicule, il est difficile de faire ce que l'on appelle un transfert, c'est-à-dire de déplacer la personne de son fauteuil roulant sur un siège de voiture normale, de mettre le fauteuil roulant dans la voiture, dans le coffre, et c'est pas toujours évident pour un ou une bénévole de faire ce genre de choses. Et puis il faut rester dans la légalité, donc on fait un petit peu d'exclusion, c'est vrai, faute de, disons, de possibilités matérielles. Si nous avions un véhicule adapté, ça serait tellement plus simple, mais après il nous rend dans d'autres problématiques au niveau de la gestion. Nous sommes une toute petite association. Hein. Mais nous faisons, je dirais, 2-3 accompagnements par semaine.
Donc c'est de l'accompagnement bénévole en fait.
Bénévole, toujours bénévole. Hein. Par contre, la personne handicapée, c'est pas gratuit, c'est-à-dire elle achète un carnet de tickets, elle va donner 2 euros pour un accompagnement de 3 ou 4 heures. Alors ça peut être pour aller au cinéma, pour aller faire ses courses, pour lire du courrier, pour beaucoup de choses. Hein. C'est à inventer chaque fois. Nous avons un monsieur qui vient de perdre la vue sur Vitrolles, il allait à la RATP à Marseille, et ben, aucun moyen de transport pour l'aider. Alors qu'il était en train de perdre la vue et son dossier MDPH n'était pas encore enclenché, NRH a assuré, tant bien que mal, ses déplacements, l'aller et le retour.
Et quelle est la condition, en fait, pour demander ce service ? C'est d'être sur ces villes-là, sur les villes de Vitrolles, des Pennes ?
Non, pas du tout. C'est d'adhérer à l'association et d'avoir une carte d'invalidité au moins à 80%. C'est-à-dire une personne de Marseille qui veut venir sur plein de campagnes. Nous avons des bénévoles sur Marseille.
Ah, d'accord. Voilà. Et même des personnes qui, éventuellement, de Marseille sur Marseille, voudraient se faire accompagner, c'est possible aussi ?
Tout à fait. Par contre, nous ne voulons pas empiéter sur d'autres associations. Un accompagnement, ça peut être aussi aller chez une famille, s'occuper un petit peu d'un jeune homme ou d'une jeune fille très handicapée, pour simplement laisser souffler les parents, ou simplement que les parents s'occupent de leurs autres enfants.
Mais à ce moment-là, on est plutôt dans un travail de... On tient compagnie à la personne et
oui,
on va se...
Tout à fait.
On n'est pas du tout dans un service de, d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie.
Ah non, non, pas du tout. Je dirais que c'est le plus. C'est le plus que peut attendre la personne handicapée ou la famille. Le petit plus que ne font pas les auxiliaires.
Voilà donc l'association Nouveau Regard sur le handicap, qui par ailleurs fait partie du réseau Parcours, comme nous d'ailleurs, qui est donc, on peut les contacter au 04 42 02 98 94, 04 42 02 98 94, et sinon le mail c'est nrhandicap, tout attaché, @free.fr. Par ailleurs, le Nouveau Regard sur le handicap diffuse le journal municipal des peines qui s'appelle le Pénois et il le diffuse en audio. C'est lu par des bénévoles. L'abonnement est gratuit et il n'est pas soumis à l'adhésion à l'association, c'est-à-dire qu'il est envoyé à toutes les personnes qui se font connaître. Voilà, on va passer à une nouvelle pause musicale. La pause 5, si tu dis pas la pause 4, on va la passer.
Non, la pause 4, pas la pause 3.
La pause...
Oui. Ouh,
allô ?
Allô ?
Moi, je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom, Alceste. Nous, on l'appelle Zantope, c'est notre ami Zantope. Bonjour, l'ami Zantope. Quand il est à Saint-Tope, il vit comme un ascète. Ils sont jamais là-bas, mais quand il est à Saint, il vit comme à Saint-Tope. Toute la nuit, il sort, il fait le tour des boîtes où l'on boite et l'on danse. Il y en a plusieurs à Saint. Il cherche Célimène, sa doudou fiancée. A vu Célimène, pas là. À la fin, il a tout vu, il lui dit ce qu'il pense. N'est pas content, tu sais. Il dit, fuyons ces boîtes de lait condensé. Ah, parce que c'est son mot, ça. Parce que lui, il dit que ceux qui dansent dans ces boîtes, ils sont à feu. Et quand il s'arrête de danser, il dit, c'est des boîtes de lait condensé. Et voilà, et ça fait rigoler. Oh, 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 là, là. Oh, oh, bon bateau. Mais lui, il est en colère et il dit, agressant des Molières. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode. Ah, il aime pas qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Il aime pas la mode et je ne ai rien tant que les contorsions ont. Il aime pas le jack de tous vos grands faiseurs de protestations. Il aime pas du tout. Viens, viens, ma Célimène, viens, viens, je t'amène. Allez, viens, va, laisse ces sapins jouer, fais ensemble joujou. Il danse jack toute leur flatterie et leur cajolerie. Avec les mains, c'est rien que du chiquet, de la corde biquet. Ah, ça c'est son mot, ça encore. Parce que lui, il passe pour l'amour, pas besoin de faire des manières. Lui, tout de suite, allez, boum boum. Et voilà, c'est pas compliqué. Mais Célimène, c'est pas ça du tout. Elle veut pas tout de suite, boum boum, parce que c'est une grande coquette. Et puis d'ailleurs, tu vas voir. Mais notre Célimène dit pas toujours amen, non. Oh non, au contraire, bien souvent, elle dit amen, non. C'est vrai ça, moi j'aime conversation de garçon plus amène, oui. Amène signifie doux, puis je suis pas sans dire, je rentre pas à minuit. Si tu crois qu'en amour y'a pas besoin de hauteur, va t'en chercher ailleurs qui peut faire ton bonheur. Pour gagner une guerre, il faut faire des manœuvres. Mets du miel sur ton piège pour attraper mon cœur. Et bien voilà. Et tout ça, c'est de la diatribe. Elle est comme ça, Célimène. Elle aime avoir beaucoup d'amoureux qui font nanana des manières. Oh oui, mais tout ça, c'est bien triste. Et ça donne envie de partir et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on est dans la liberté. Comme il a dit un copain à moi, seulement voilà, il n'y en a pas. Tout est loin depuis Pâques, alors qu'est-ce que tu veux faire?
Voilà, c'était Bobby Lapointe, la misanthrope.
Et pourquoi tu nous as mis ça, toi, Philippe?
Oh, ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui va travailler le misanthrope là, bientôt.
Oui, enfin, en tout cas, elle travaille une set. C'est Angélique, qui donc joue avec l'atelier théâtre du Carpe Diem et qui probablement en juin nous présentera ce qu'elle est en train de faire actuellement. Effectivement, elle travaille une scène du misanthrope et puis elle travaille également Phèdre, je crois, une scène en tout cas. Nous verrons bien ce que cela va donner en juin pour l'instant, on en sait guère plus que cela. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Un petit peu d'actualité, rapidement, avec notamment les prochaines audiovisions prévues à l'Alcazar. Le 16 mars, ce sera Les Oiseaux, le film de Hitchcock. Et le 20 avril, ce sera Chouchou, donc, dont je n'ai plus le nom du réalisateur. Je mettrai des informations complémentaires sur le site que je vais finir quand même par mettre à jour depuis le temps que je le dis. Mais là, il va falloir vraiment que je le fasse parce que toutes les personnes qui ont fait des émissions doivent se dire que quand même, ce serait pas si mal si je les mettais en téléchargement. Donc vraiment, je vais m'y mettre maintenant que j'ai le logiciel pour le faire, pour faire ce transfert de fichiers sur le site que je n'avais plus depuis que j'avais pas. Que j'avais plus Windows sur le poste. Voilà, c'était ça le problème. Bon, d'autres séances d'audiovision seront maintenues également à l'Alcazar toute l'année, tant mieux. Par ailleurs, en ce qui concerne Marseille 2013, la direction des personnes handicapées de la ville a mis à disposition des personnes du service civique, donc des volontaires de l'association Unicité, qui sont à disposition des personnes handicapées qui souhaitent se rendre sur les événements ou sur les expositions prévues dans le cadre de Marseille 2013 ou d'ailleurs dans d'autres cadres de spectacles ou d'expos. Et en fait, ils expliquaient, quand je les ai reçus il y a quelques jours, ils expliquaient qu'ils étaient en mesure de faire des visites descriptives pour les personnes handicapées visuelles. Alors, j'ai pas encore testé. Il paraît qu'il y a des possibilités de visite de ce genre sur toutes les expositions et notamment au J1 où il y a une exposition, je ne sais plus sur quoi d'ailleurs, j'ai oublié, et puis à la Friche aussi où il y a une exposition d'art contemporain. Et donc il paraît aussi qu'ils ont mis des cartels en gros caractères et en braille sur pas mal de musées, donc on va aller tester tout ça. Et on aura sans doute plus d'informations prochainement, puisqu'il y a une brochure concernant les programmes accessibles, les expositions et spectacles, qui est en passe de sortir et qu'on a donc extraite en fait du programme officiel et qui a été fait dans un PDF qui normalement devrait être balisé, c'est-à-dire qui devrait être accessible en principe. Moi, je l'ai eu en main, cette brochure. Effectivement, le PDF est accessible. En tout cas, quand on le convertit en texte, le PDF lui-même, j'ai pas réussi à le lire, moi, ce qui ne veut pas dire qu'il est pas lisible. Ça veut dire simplement que ma configuration ne le permettait pas. Faut voir. De toute façon, on le diffusera dès que nous aurons la version définitive qu'on attend toujours pour le moment. Ensuite, il y a également le Festival de Marseille où il y aura des choses accessibles, notamment un des spectacles de danse qui s'appelle Chroma, qui se déroulera partiellement dans l'obscurité d'ailleurs, et qui est basé sur la vie d'un réalisateur qui, à la fin de sa carrière de cinéaste, est devenu aveugle et qui a beaucoup travaillé sur les lumières et sur les couleurs. Donc apparemment, ça promet d'être assez intéressant du point de vue notamment de ce qui sera décrit, mais du point de vue aussi de la musique qui va être diffusée pendant la chorégraphie. Ce sera pour juin. Par ailleurs, sur le théâtre de la Criée, il y a le dispositif des souffleurs d'images qui s'est mis en place depuis le mois de janvier. Les souffleurs d'images, ce sont des personnes qui sont en études de théâtre et qui se mettent en fait à côté de la personne non-voyante ou malvoyante et qui, à sa demande, lui décrivent le plus bas possible, évidemment, ce qui se passe sur la scène et que la personne ne peut pas voir. Alors, ce n'est pas de l'audiodescription, hein, c'est un peu plus soft comme dispositif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après la pièce, le binôme se retrouve et peut échanger sur la pièce autour d'un verre. Donc, c'est assez sympathique quand même comme manière de voir le théâtre. Je n'ai pas testé non plus. Il faudrait tester, le seul problème étant que ce n'est qu'à la Criée. Et que les spectacles qui sont à la Criée, j'ai rien vu qui moi m'a fait tilt. En tout cas, donc je sais pas. Il faudra que je regarde un peu mieux, sans doute. En tout cas, ceux qui veulent des renseignements concernant ce dispositif de souffleur d'image qui pourrait être étendu s'il y a des amateurs et qui pourrait aussi être étendu au niveau du Festival de Marseille, par exemple. C'est, en tout cas, il y a des négociations en cours. Il faut se renseigner auprès du Centre Ressources Théâtre Handicap au 01 42 74 17 87. Oui, c'est les Parisiens qui gèrent, mais en fait, les gens habitent ici. Hein, donc, ils peuvent se déranger pour les spectacles que vous souhaitez. Donc, 01 42 74 17 87. Ou bien le mail de Monsieur Maxime Caillot. Ça s'écrit maxime.caillot, C-A-I-2-L-A-U-D. @crth.org. Et il y a des renseignements également sur le site du CRTH, donc www.crth.org. Par ailleurs, la CRIE a mis en place aussi une brochure en audio de ces spectacles depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Ben le seul, j'ai pas réussi à la lire en audio, moi, cette brochure. Je sais pas très bien comment ça fonctionne. Peut-être que le fait que je sois sous Linux a posé souci. J'irai voir avec Windows la prochaine fois ce que ça peut donner. Mais je crois qu'en fait, ils ont mis ça en... Ils ont dû mettre une synthèse vocale à l'intérieur. Je sais pas comment... Enfin, en tout cas, c'est pas un programme téléchargeable en MP3, ça c'est sûr, apparemment. Ce qui est dommage, d'ailleurs, ils auraient pu mettre quelque chose de téléchargeable. Ça aurait été peut-être bien intéressant aussi. Enfin, on pourra toujours leur demander. Peut-être qu'ils le font, qui sait. Il y a également, en mars, une représentation du spectacle chorégraphique de... Comment qu'elle s'appelle ? De Madame Makeyev, je crois. Je n'ai plus son prénom, décidément. Qui est donc... qui s'appelle Alibaba, ce spectacle, qui est en représentation... C'est à la Criée, et donc il y a une possibilité de traduction en langue des signes. Et si on veut se renseigner, voilà, j'ai retrouvé mes papiers. C'est le dimanche 24 mars, c'est à 15h. Renseignements et réservations auprès de Madame Pironne au Théâtre de la Criée, 04 96 17 80 20. Et réservation également par SMS, donc pour les personnes malentendantes et sourdes, au 07 86 47 64 49. 07 86 47 64 49. C'est donc un SMS qui est mis en place en fait entre janvier et juin pour l'ensemble des spectacles qui ont une possibilité de traduction LSF, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Il y a Alibaba, il y a Mille et une nuits, et puis il y a un Don Quichotte aussi, je crois, qui est prévu. Tout ça, c'est prévu à la Criée. Voilà, ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour les actus, parce que sinon, on va avoir des difficultés pour descendre, vu qu'on nous prend à 21h30 assez précise, d'après ce que j'ai compris. N'est-ce pas, Philippe ?
Oui. Ben, j'ai quand même une dernière pause.
Oui, mais on va la faire passer, effectivement. Je voulais quand même signaler au passage, pour ceux qui avaient déjà vu ce film, qui est magnifique, qui s'appelle « Rouge comme le ciel », que ça a été publié en DVD avec audio description, s'il vous plaît, par Arte Édition. Donc, moi, je crois que je vais l'acheter parce que j'avais beaucoup aimé ce film et que s'il y a une description en plus, c'est très bien. Il y a par ailleurs une association qui vient de se monter, qui est toute nouvelle, qui s'appelle DASLCA, qui est une association donc pour le développement de la sensibilisation et des loisirs culturels adaptés, et qui propose des ateliers jeux adaptés dans le 5e arrondissement, le 6 mars et le 9 mars. Entre 14h et 17h, c'est à la salle paroissiale de l'église Saint-Michel, 5 place de l'Archange. C'est ouvert à tout le monde, y compris aux personnes handicapées visuelles, mais pas seulement. Et l'entrée est à 5 euros. Boissons et goûters offertes pour les enfants et boissons offertes pour les adultes. C'est donc Aman Bataoui qui a monté cette association avec quelques autres. Et on peut s'inscrire, parce que c'est sur inscription quand même, parce que la salle n'est pas immense, au 06 63 62 90 27. 06 63 62 90 27. Aman a par ailleurs développé par lui-même tout un tas de jeux qu'il a adaptés à la déficience visuelle. Je pense qu'on aura l'occasion de le recevoir un jour dans cette émission parce qu'il a fait un travail tout à fait remarquable. Voilà, voilà. Eh bien, on va donc passer à la dernière pause et vous saluer parce que nous allons aller manger. Mais oui, comme toutes les fois qu'on fait cette émission, on mange après. Et donc, Philippe, tu nous offres quoi?
Donc, voilà, je voulais faire découvrir un pianiste français, je pense, peut-être belge, je crois qu'il est belge.
Il ne faut pas se tromper. Hein.
Alors, c'est Jean-Michel Pilk. Alors, c'est dans un titre, bah, c'est un classique hein, du jazz, c'est « I got it bad and that ain't good ». Et il est avec, à la basse, François Moutin et au drums, quoi, à la batterie, Harry Honing.
Voilà, et nous, sur cette pause-là, on vous dit au mois prochain.
Au mois prochain.
Au revoir.
Thank you.
L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly